Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet spécial que on n'entend pas beaucoup dans nos églises, c'est le sabbat. Est-ce que le sabbat est encore d'actualité aujourd'hui dans ce que nous vivons actuellement, dans la nouvelle alliance aussi en tant que chrétien? J'ai voulu parler de ce sujet, merci. Je voulais vous parler de ce sujet parce que, bon, on est dans ce temps de vacances, on est dans un temps de repos, ce sujet m'est venu à la tête de dire, mais est-ce que je dois encore respecter le sabbat? Qu'est-ce que le sabbat veut dire pour nous aujourd'hui? Si je vous parle de cela, c'est parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on n'utilise pas vraiment dans nos milieux chrétiens évangéliques, mais de plus en plus, ce mot revient dans le vocabulaire. Vous allez voir pas spécialement dans la même façon que dans l'Ancienne Alliance ou que nous utilisons dans la Bible, mais d'une façon du temps de repos, du temps de décrocher, du temps surtout aussi de consacrer le temps à l'Éternel, de prendre un temps spécial aussi avec le Seigneur. Et je crois que on va voir comment que ce thème est important aussi pour nous. Voilà. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça va veut dire? Ce mot, on le voit juste dans la Bible. Bien, c'est sûr que les peuples du temps d'Israël avaient aussi peut-être leur façon de faire. Mais le mot sabbat veut dire repos, cessation d'activité, jour de repos divinement institué pour tous les hommes. Donc, dès son origine, selon le récit de la création, on voit que Dieu se reposa le septième jour de toute son œuvre. Regardez, ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Dieu se reposa le septième jour de toute son œuvre. Il le bénit et sanctifia le septième jour. Genèse chapitre 2, versets 2 et 3, il dit, au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième, il en fit un jour qui était réservé. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. De toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Donc Dieu s'est arrêté en considérant et en bénissant toute l'œuvre qu'il avait accomplie durant 6 jours pour que justement l'homme puisse aussi se reposer le septième jour. Donc, l'homme est appelé à participer à cette bénédiction et à interrompre son travail en ce jour sanctifié. Alors, quel est le but? Quel est l'objectif du sabbat? Donc, la première mention du sabbat qu'on retrouve dans la Bible, c'est dans Exode chapitre 16, versets 23 et 30. On voit comment que Dieu, justement, à travers Moïse, va donner toutes sortes d'ordonnances, de lois, de commandements. Et dans ces commandements, il y avait la façon de qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas faire le jour du sabbat. Rappelez-vous que justement dans le désert, il n'y avait absolument rien à manger. Et le peuple a crié vers l'Éternel et Dieu les a bénis en leur apportant la manne, quelque chose qui tombait du ciel jour après jour. Ils ramassaient, ils pouvaient faire du pain et se nourrir. Mais il disait, le sixième jour, je vais vous donner une double portion. Vous allez ramasser deux fois parce que le dimanche, ben pour nous dimanche, mais le sabbat, le samedi, vous n'allez pas travailler. Vous allez préparer vos galets, vos repas le jour avant, mais le jour du sabbat, vous allez vous reposer. Et même cette ordonnance fut aussi incluse dans le quatrième commandement du Décalogue de comment respecter le sabbat. Alors, ouvrons notre Bible justement dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, où Dieu va justement dire à son peuple qu'est-ce qu'il peut faire le jour du sabbat, qu'est-ce que c'est le sabbat aussi pour eux. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Il dit, pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour est le jour de repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Mais le septième jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Le repos du sabbat est aussi lié à l'accomplissement entier de l'œuvre de l'homme. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc, ce septième jour est un jour consacré à l'Éternel. On devait immoler dans le sanctuaire 2 agneaux en plus de l'holocauste perpétuel des jours ordinaires. Donc, pour Chadia, le peuple devait faire ses délices pour chercher particulièrement en ce jour-là d'accomplir la volonté du Seigneur, le sanctifier, glorifier et honorer Dieu. Donc, l'homme Dieu, justement, avait à cœur de poursuivre ses penchants et ses propres voies. Il devait, justement, être béni, sanctifié par la recherche de Dieu et de proclamer qu'il est heureux. Regardez Ésaïe chapitre 56, verset 2. Ésaïe 56, verset 2. Il dit, bienheureux sera l'homme qui agira ainsi. Heureux sera celui qui s'appliquera, qui respectera le sabbat et ne le profanera pas et qui se comportera de ne faire aucun mal. Donc, on voit dans ces explications que le jour du sabbat est important pour chaque israélite qui devait respecter les lois et les commandements de Dieu. Donc, Dieu avait compris l'importance de ce jour, de faire arrêter les gens de leur ouvrage de toute la semaine et de se consacrer à Dieu, de prendre le temps de glorifier, de louer Dieu, comme on le fait aujourd'hui à travers cette célébration. Des fois, on a l'impression que des fois, Dieu est un peu sévère par rapport au respect du sabbat. On a même dit que ceux qui faisaient du travail pouvaient être condamnés à mort, etc. Donc, si Dieu a mis beaucoup de règles très précises sur le sabbat, c'est parce qu'il savait que justement, l'homme, par sa nature, il veut continuer de faire ces choses. Et que s'il n'y a pas des règles, s'il n'y a pas des ordonnances autour de lui, il va oublier de le faire. Aujourd'hui encore, on met encore beaucoup de règles autour de nous, hein, des précises, des lois, parce que l'humain a encore tendance à ne pas respecter. Voilà pourquoi que nous avons des lois sur la route, et des lois de comment se comporter avec une autre personne, etc. Parce qu'il faut mettre un cadre pour que chacun puisse respecter aussi le prochain, respecter ce qui se passe. Mais on voit justement avec le sabbat que les choses ont changé. Après l'exil à Babylone, donc quand le peuple est revenu de l'exil de Babylone, on a vu que l'observation du sabbat a vraiment pris un tournant nouvel. Il y a eu vraiment un légalisme extrême qui s'est développé. Et on voit comment que les leaders religieux ont rajouté beaucoup de lois pour pouvoir respecter ce sabbat. Et on le voit comment que Jésus va redire plusieurs fois aux pharisiens. Comment que Jésus plusieurs fois a fait des miracles, a fait des choses qu'il ne fallait pas faire normalement le jour du sabbat. Et voici ce que tu dis dans Marc chapitre 2, verset 23 à 28. Ou notre Bible dans Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Regardez bien ce que Jésus fait le jour du sabbat. Verset 23. Un jour du sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là? Il leur répondit. N'avez-vous jamais vu ce qu'avait fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien mangé? Il est rentré dans le sanctuaire de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiathar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger. Il a donné aussi à ses hommes. Et il ajouta, le sabbat était fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. On voit dans ce texte comment que Jésus va reprendre les pharisiens. Parce qu'ils sont venus tellement extrêmes dans leur façon de pratiquer le sabbat que la véritable sens du sabbat, de consacrer à Dieu, d'honorer Dieu, était juste des règles pour pouvoir pas faire certaines choses. Et Jésus va leur dire au verset 27, le sabbat était fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Alors maintenant que nous sommes sous des nouvelles alliances, c'est-à-dire de ce que Jésus a fait sur la croix pour nous donner la grâce et la bonté d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle. Est-ce que le commandement du sabbat est encore d'actualité? Et nous avons une réponse dans Colossiens. Vous pouvez marquer ça sur votre papier. Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Il est dit, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours et de fêtes, des nouvelles lunes ou des sabbats. Dans ces versets, on voit que Paul va dire que ce n'est pas l'importance des règles, des rites et des règles qui va faire que l'homme sera sauvé, mais d'agir avec discernement et vérité. Paul voulait justement contrer toutes les ordonnances qui avaient été rajoutées au fil des temps dans les différents sujets, comme sur la nourriture, l'observance du sabbat, etc., sur d'autres sujets. Donc, même si nous ne retrouvons pas ce terme dans la Nouvelle Alliance, Jésus va dire que le sabbat a été fait pour l'homme, dans le sens que ce jour de repos et de consacration peut continuer de se faire. Que ce principe est bon, mais sans forcément tous les rites ou interdits qui se faisaient avec. Voilà pourquoi que justement l'Église Et pour les chrétiens, on continue de célébrer le sabbat en le mettant le premier jour de la semaine, qui est aujourd'hui pour nous dimanche. Regardez Actes chapitre 20, verset 7a, il dit, « Le dimanche, nous étions venus pour rompre le pain. » Donc les premiers disciples ont continué de se rassembler pour pouvoir célébrer le nom du Seigneur, pour pouvoir prendre un temps de repos et un temps consacré à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, à travers le monde, la plupart des pays, le dimanche, c'est un jour de repos. C'est un jour de congé. Mais le défi que nous avons, nous, dans notre société occidentale aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, le dimanche est devenu un jour comme les autres. Tout est ouvert, tous les magasins ouverts, les gens font leurs mêmes activités. C'est incroyable de voir, moi, je suis étonné quand je passe sur une autoroute ou proche des grands centres commerciaux, là, il y a du monde, là, les magasins sont pleins, les stationnements sont pleins, tout le monde va le dimanche faire ses achats. Chaque fois que je reviens en Suisse, je suis toujours un peu étonné parce qu'en Suisse, on a gardé que le dimanche, c'est encore un jour férié, un jour de repos, et tous les magasins sont fermés. Et nous, j'ai plus l'habitude. Donc, souvent, des fois, je dis, ah, mais j'ai oublié quelque chose, vite aller à quelque chose au magasin. J'arrive dans le magasin, il est fermé. Et là, je suis en run devant, franchement, pourquoi il est fermé? Mais je réalise qu'ils ont bien fait. On a pris tellement d'habitude chez nous qu'on va au magasin même le dimanche. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, mais on est arrivé dans un rythme où il n'y a plus de changement, où on fait toutes les choses à tous les jours. Pete Saccaro, c'est un auteur chrétien, va dire « Tout travail, rémunéré ou non, est bon, mais il doit être limité par la pratique du sabbat. Tout travail, rémunéré ou non, est bon, mais il doit être limité par la pratique du sabbat. » Donc, ils disent que nous devons pratiquer ce repos de travail, non pas la façon rituelle comme dans l'Alliance, mais comme un jour de repos est consacré à Dieu. On a besoin de repos physique. On a besoin, comme aussi de ce temps qu'on fait beaucoup de temps de vacances, pour simplement décrocher notre rythme habituel. Justement, l'Église méthodiste du Canada nous a encouragé chaque pasteur ici au Québec à lire justement un livre de ce auteur de Pete Scarrow qui s'intitule « Devenir un leader émotionnellement sain ». Donc, c'est un livre que je vais lire durant les vacances, je vous donnerai des nouvelles après, mais j'ai hâte de lire ce livre. Où il va nous donner des principes, comment devenir un leader qui est sain dans tout l'ensemble de sa personne. Si l'Église méthodiste du Canada dit qu'on a besoin justement d'avoir ces temps de repos, ces temps de sabbat, c'est parce qu'il faut justement qu'on peut équilibrer dans notre travail, dans notre repos, dans notre marche avec le Seigneur. Si nous sommes équilibrés dans tous ces aspects, l'Église va bénéficier justement de ce leader qui est sain, qui est équilibré. Voilà pourquoi que le pasteur a le droit aussi à ses vacances. Je ne dis pas pour justifier les vacances, mais on a le droit aussi de pouvoir de décrocher pour pouvoir ressourcer. Et plusieurs fois, les gens me disent aussi, pasteur, on voit que tu es reposé après parce que tu es rayonnant, parce qu'on voit que tu es différent. Les vacances, c'est à ça. Mais on n'est pas obligé d'aller au sud, de payer 2000 $ pour aller au bord de la mer dans un bel hôtel et après, pendant toute l'année, on va rembourser ce prêt. Non, simplement se reposer chez nous, c'est aussi important. Le problème, c'est que si en tant que leader, mais en tant que chrétien aussi, nous ne sommes pas émotionnellement sains, équilibrés dans notre vie de tous les jours, ça va affecter notre santé, ça va affecter notre vie chrétienne, ça va affecter aussi nos familles, nos proches autour de nous. Donc, Pete Saccaro va dire, le sabbat est un bloc de temps de 24 heures pendant lequel nous arrêtons de travailler, apprécions le repos, pratiquons les délices et contemplons Dieu. Alors, j'aimerais vous donner 4 points que Pete m'a donné. J'aimerais que vous puissiez les écrire, pour que vous puissiez réfléchir durant cette semaine comment les mettre en pratique. Le premier point, c'est arrêter. Arrêter. Le sabbat est avant tout et un jour où nous cessons tout travail, rémunéré et non rémunéré. On abandonne les illusions que nous sommes indispensables au fonctionnement du monde. Nous reconnaissons que nous ne terminerons jamais nos objectifs et travaux. Souvent, on dit, ben, si je n'ai pas le temps, je vais faire le dimanche, comme ça, je vais pouvoir me rattraper. C'est pas ça le but. Dieu est sur ton trône et il redit assez bien à garder, à gouverner le monde sans notre aide, même si on s'arrête de travailler pendant un jour. Et c'est vrai que c'est difficile de s'arrêter. Certaines personnes ont la peine. J'en connais moi-même ici dans l'Église, parce que je suis une de ces personnes qui a la difficulté de m'arrêter aussi. Et vous pouvez me demander à ma femme aujourd'hui que lorsque j'ai pris mon jour de congé, maintenant, mon jour de repos, je fais rien, je n'aime bien rien faire. Juste me reposer, rien faire, pour moi, c'est suffisant. Et même quand je suis en vacances, j'ai besoin de plusieurs jours avant d'être capable de décrocher complètement. Parce que les premiers jours, je suis encore en train de réfléchir à l'église, au travail, à ce que les profs peuvent mieux faire, etc. Je sais que c'est difficile de s'arrêter. Et je sais que pour des personnes de notre église et certaines personnes, c'est plus difficile de s'arrêter, de tout ouvrage de la semaine. Mais pour trouver un bon équilibre, si on veut durer dans l'âge, il est important de prendre le temps de s'arrêter. La vie, ce n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. Dans le sens qu'il faut trouver un bon équilibre pour être capable de reprendre souffle et de continuer. Dans nos sociétés occidentales, où le stress est toujours là, où tout va trop vite, trop de choses à faire, il est important de s'arrêter. Alors voilà pourquoi que pour beaucoup de personnes, les vacances sont très importantes. Voilà pourquoi que même peut-être, ici au Québec, on fait les vacances de la construction, parce que les gens ont besoin de s'arrêter, parce que sinon, ils vont continuer, ils vont s'épuiser. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore ce rythme de vie, de s'arrêter au moins un jour par semaine, je vous invite à essayer de le faire. Vous allez voir l'impact pour vous et votre famille. Le deuxième point, c'est se reposer. Une fois qu'on s'arrête, on a cette invitation de Dieu au repos. Dieu s'est reposé de son œuvre après la création. Tous les 7 jours, nous devons faire de même. On est engagé à faire des activités qui nous restaurent, qui nous reconstituent. De la sieste, de la randonnée, de la lecture, de la bonne nourriture, des loisirs, du sport. Quelque chose qui nous repose. Quelque chose de différent que nous faisons d'ici dans notre jour. Je me rappelle qu'à un moment donné, l'Église méthodiste nous demandait de faire un rapport annuel, mensuel de nos activités, comment ça allait à l'Église, comment allait notre santé personnelle et spirituelle. Il y avait toujours une question, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine pour vous reposer ou bien pour sortir un peu du ministère? Et la plupart des pasteurs ne répondaient rien à cette question. Quand on leur disait, mais est-ce que tu fais un loisir? Parce que, non, mais j'ai pas le temps, je travaille toujours, je dois encore faire m'occuper de la vie, je dois m'occuper encore de ma famille, etc. J'ai pas le temps de faire d'autres choses. Mais pour se reposer, il faut aussi se planifier. Parce que non, c'est trop facile, par exemple, de dire, ben oui, je vais me reposer, mais je vais profiter, par exemple, de faire le ménage à la maison, ou de faire qu'est-ce que, de réparer quelque chose dans la maison, etc. À ce moment-là, on fait la même chose. On doit planifier, dire que pendant les 6 jours, je dois faire les choses que je dois faire, et le 7e jour, je me repose. Je fais quelque chose qui permet de me reposer, de reprendre des forces personnellement et spirituellement. Pour moi, le repos est avant tout de décrocher notre rythme de vie habituel. Et surtout, peut-être ici, pour certains, peut-être venant d'une autre culture, c'est vrai que le système de vacances est quelque chose peut-être un peu nouveau. Mais dans notre société occidentale, le fait que nous sommes tellement dans un système où il faut aller, vas-y, il faut y aller dans un horaire, tu dois suivre, tu dois amener les enfants à l'école, chercher les enfants, aller les amener à une activité, etc. Il y a tellement un rythme, il faut au moins une fois par semaine dire je me repose. Je casse ce rythme. Et aussi des vacances pour pouvoir reprendre les choses. Le troisième point, c'est un point que j'aime beaucoup, délice. Après avoir terminé son œuvre de la création, Dieu l'a déclarée très bonne. On le voit dans Genèse, chapitre 1, verset 31. Ce n'est pas une réflexion qu'il a faite, puis il dit, ah bien, en fait, c'est vrai, maintenant que j'ai bien fini de faire ça, ben, c'est juste, ok, ben, là, je me repose. Non. Si vous regardez dans la création, dans le premier texte de Genèse, après chaque jour, Dieu trouva que c'était bon. Dieu est émerveillé de ce qu'il fait. Et le 7e jour, il veut simplement se reposer de ses délits de tout ce qu'il a fait. Donc, dans le cadre de l'observation du sabbat, Dieu nous invite à nous joindre à la célébration, à profiter, à nous réjouir de sa création, de tous les dons qu'il nous offre en elle. Donc, c'est d'innombrables dons, bien de différentes formes. Ça comprend peut-être des personnes, des lieux, des choses. Dans la préparation, justement, à la pratique du sabbat, l'une des questions qu'on doit se poser, qui est très importante, c'est qu'est-ce qui me donne de la joie et du plaisir? Qu'est-ce qui me donne de la joie et du plaisir? Je pense d'accord pour nous d'une réponse différente. Mais une partie de l'invitation, ça va être profiter Je te délecter de la création de ses dons. J'aime beaucoup ce troisième point, parce qu'il va au-delà de juste de nous reposer, de décrocher, mais il dit de prendre le temps de se délecter, de se réjouir de ces temps de repos, d'aller voir peut-être dans la nature les beautés du Seigneur, de faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous donne de la joie, parce que cela, ça va nous émerveiller, cela va nous rendre la joie, ça va nous dire de remercier le Seigneur. C'est vrai que peut-être que je ressens dans certains milieux culturels que c'est comme une sorte, entre guillemets, de péché, de s'amuser, de prendre du bon temps, de faire quelque chose qu'on aime. Je me rappelle les premiers temps de mon ministère, quand je lisais des livres sur certaines biographies de pasteurs, surtout en Amérique, qui prenaient du temps pour aller jouer au golf, pour aller faire du bateau, et tout ça. Je disais, mais c'est une perte de temps, franchement, les pasteurs, ils devraient rester sur l'ouvrage dans le ministère, puis continuer leur travail, pour voir, parce que le temps est proche, le temps de la fin est proche. Aujourd'hui, je comprends comment que c'est important de décrocher, surtout ceux qui sont aussi dans le mystère, de faire quelque chose qui nous plaît. C'est l'occasion peut-être de partager avec un autre, une autre personne, un repas, une activité où la joie et le plaisir sont présents et font du bien. Et surtout maintenant, après ce temps de pandémie, il est bon de se délecter de quelque chose que l'on aime, quelque chose qu'on a peut-être perdu, peut-être dans ces deux dernières années, de dire, ben moi, je vais faire cela. Maintenant que nous sommes à contre-cœur, dans la vie de contre-cœur, on aime bien, justement, en fin de journée, d'aller nous promener au bord du fleuve ou faire du vélo. Simplement de faire du vélo pour simplement admirer. Et quand on passe dans le village, donc on passe au bord du fleuve, je remercie Dieu pour la création, pour les bontés qu'il nous donne. Je me rappelle ici, même que j'étais ici à Montréal, le dimanche après-midi, on prenait toujours un temps avec ma femme pour aller nous promener au bord du canal de la Chine. C'est un merveilleux coin, le canal de la Chine, on se promène, il y a de la verdure, et puis on allait voir un petit café dans un petit restaurant qu'on aimait bien. C'était un moment de détente, un moment de joie, de se reposer. Alors j'encourage chacun à prendre ses temps, et surtout peut-être aussi les familles pendant le temps de vacances, de prendre aussi un temps avec les enfants, même si c'est un ou deux jours, de sortir de la ville, de prendre peut-être un moment pour aller voir une exposition, d'aller voir peut-être faire une activité, aller peut-être simplement dans la nature. C'est important de faire des choses avec les enfants, parce que les enfants vont le retenir et ils vont vous remercier, parce que les enfants, à un moment donné, sont trop grands et ils vont partir. Ils n'auront plus le temps forcément d'être connectés avec eux. Je me rappelle que c'est vrai que moi, je travaille aussi beaucoup et que Nicole aimait très bien le temps qu'on faisait avec nos vacances, les vacances avec nos filles. Et les filles aimaient ce temps parce qu'on était vraiment là pour eux. On était entièrement pour pouvoir vivre ce temps ensemble. Il y a tellement de beaux coins ici au Québec. Chaque fois que je peux, j'encourage chaque membre de l'Église à aller visiter la Gaspésie, le lac Saint-Jean, la Abitibi. Ce sont tellement des belles régions où les gens sont super sympathiques et où Dieu a fait tellement de belles choses dans la création. Il faut aller voir ces endroits avec la famille pour simplement se délecter de ce que Dieu a fait. Se délecter de prendre un bon cappuccino sur une terrasse avec votre femme, votre mari ou un ami. Simplement se reposer, prendre le temps d'être ensemble, se parler. Lorsqu'on prend ce temps de trouver quelque chose de bien, vous allez voir comment ça va faire du bien pour vous. Ça va vous aider aussi émotionnellement, spirituellement aussi, dans votre marche avec le Seigneur. Et le quatrième point, qui est tout le temps aussi important, contempler. Réfléchir à l'amour de Dieu et au sens de notre temps de sabbat. Ce qui fait un sabbat biblique, c'est qu'il est saint pour le Seigneur. On ne prend pas congé de Dieu lors du sabbat. Mais on se rapproche de lui. Comme on le fait aujourd'hui, on prend un temps pour se mettre ensemble en tant qu'Église, pour se rapprocher, pour louer lui, mon Seigneur. Et je remercie le temps de louange aujourd'hui pour pouvoir ramener nos cœurs, se délecter devant le Seigneur pour se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous. Pour se rappeler les vérités que Dieu est là pour nous donner. Il est un Dieu fidèle, qui est bon, qui est un refuge pour nous. Donc le sabbat est une invitation à voir l'invisible dans le visible, à reconnaître les voies cachées par lesquelles la bonté de Dieu se manifeste dans notre vie. Ça ne signifie pas qu'on doit rester toute la journée à prier ou à étudier les Écritures, même si les activités peuvent se faire peut-être seules ou en famille. Mais la contemplation signifie que nous sommes intensément concentrés sur les aspects de l'amour de Dieu qui nous parviennent à travers tous les dons que Dieu a fait de sa main. Regardez Psaume chapitre 19, verset 1. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue du céleste public l'œuvre de ses mains. Je ne sais pas si comme vous l'avez voyé sur la photo, sur le diaporama, quand vous êtes sur le sommet d'une montagne, vous voyez l'étendue. Quand je vois cela, moi, je suis émerveillé. Le Seigneur, c'est merveilleux. Je me délègue, je contemple la beauté. Et lorsque je contemple la création de Dieu, je loue le Seigneur. Je dis, le Seigneur, c'est incroyable. Même si peut-être l'homme peut-être a abîmé un peu la création, ou même pas juste un peu beaucoup, mais Dieu fait de grandes choses. Le sabbat, c'est l'occasion de nous rapprocher de Dieu, de prendre du temps que nous n'arrivons pas à avoir peut-être dans nos courses effrénées de tous les jours. Le sabbat, nous recherchons intentionnellement la grandeur dans tout, dans les gens, autour d'avoir peut-être un bon repas, de la musique, des sports, des loisirs, quelque chose qui nous plaît de faire pour simplement remercier Dieu et être bien. Et justement, un des aspects qui est facile de pouvoir contempler, c'est justement à travers la création de Dieu. C'est si difficile de le faire depuis notre bureau, notre chambre. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur notre ordinateur cellulaire, on peut avoir des belles images. Hein. On se contente des fois de voir les images que les autres ont fait de la belle nature. Mais on peut aller nous-mêmes dans la nature pour pouvoir respirer, entendre le son des oiseaux, entendre le bruissement des feuilles. Et dire, Seigneur, je suis dans la joie quand je suis dans ta création. Lorsque nous sommes dans la nature, on peut contempler la création de Dieu. Et même ici, à Montréal, je ne sais pas si vous avez déjà été sur le Mont-Royal, c'est immense, c'est incroyable. Des hectares de forêt, de chemin. Vous pouvez aller vivre dans un endroit où vous n'allez voir personne. Prenez un temps et vous allez contempler le Seigneur. Cet aspect de contempler Dieu, de prendre le temps avec lui dans une journée qui sera différente des six autres journées, est important pour notre équilibre mental, comme dans notre vie spirituelle. Et comme nous l'avons mentionné justement, contempler Dieu va se faire de différents domaines, de différentes façons. Dieu va vous montrer qu'est-ce qui est bon pour vous, qui est reposant, qui est un délice, qui permet de contempler le Seigneur. Alors pour terminer, comment vivre le sabbat aujourd'hui? Nous sommes appelés à voir le sabbat comme un temps que Dieu nous donne pour nous reposer de tout l'ouvrage de la semaine, de décrocher d'une différente manière pour simplement prendre un temps de repos. Peut-être pour certains, c'est le dimanche, mais peut-être pour certains, c'est un autre jour, le lundi, le mardi, le mercredi. Quel que soit, mais prenez un temps pour vous, pour votre famille, pour le Seigneur. Prendre ce temps comme un délice que Dieu nous donne pour s'émerveiller de tout ce que Dieu, le Seigneur, nous donne. De contempler sa gloire à travers la nature, à travers nos familles, à travers ce que Dieu nous met sur notre chemin. Et c'est bon encore dans ce temps d'été de prendre ces temps de sabbat, surtout dans ces quatre aspects que nous venons de vous donner. Hier, nous étions avec le comité officiel chez nous à Contrecœur et pour réfléchir un peu sur l'avenir de l'Église et des défis que nous rencontrons. Et on aura l'occasion de reparler de là-dessus. C'est vrai qu'un des aspects que nous voyons en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude, beaucoup de découragement de la part des chrétiens, de la part des personnes autour de nous. Et ça affecte aussi notre vie chrétienne. On le voit. Je ne sais pas si vous parlez avec des autres frères et sœurs de l'Église ou avec d'autres chrétiens. On voit qu'il y a une certaine lassitude. On voit qu'il y a un certain découragement qui s'est inscrit. Et quand je réfléchissais, quand je préparais aussi ce message, je disais, mais ça, c'est un aspect aussi, justement, de pourquoi on a perdu cette fougue, cet enthousiasme pour le Seigneur, qu'on ne pratique pas le sabbat. Je ne dis pas que c'est juste ça, mais c'est un des aspects. Parce qu'on court tellement qu'on n'arrive pas à contempler le Seigneur. On n'arrive pas à s'asseoir, à simplement se reposer au Seigneur. Maintenant, je suis devant toi, puis je dois bien faire, je veux simplement te contempler. Je veux simplement délecter de faire quelque chose qui me plaît, une activité qui me plaît. Je veux simplement me reposer physiquement, spirituellement, émotionnellement. On va chercher une vie équilibrée, non pas selon les standards humains de la société, mais selon ce que Dieu nous demande. Voilà pourquoi que Dieu a mis tellement d'emphase dans les règlements par rapport au sabbat, pour que les gens puissent comprendre, saisir l'importance. Alors nous sommes appelés ce matin à rentrer dans le repos de Dieu à travers justement ce sabbat. Et on va prendre justement la Sainte Cène. Et je crois que ce matin, on peut prendre la Sainte Cène justement aussi, dans le temps de repos de Dieu. dans le sens que Jésus-Christ, il est venu pour nous donner le repos, c'est-à-dire de nous pardonner nos péchés, de nous donner la vie éternelle. Et il veut que nous puissions grandir, progresser notre vie. Et désire qu'à travers ce repas, on puisse réfléchir, se rappeler, remercier ce que Jésus-Christ a fait pour la croix. Mais aussi de dire, rentre dans mon repos. Ne stresse pas, ne t'angoisse pas devant tout ce qui te reste à faire, devant tout ce qui se passe devant, autour de toi. Rentre dans ton repos parce que je suis mort à pour toi. Je t'ai donné le pardon des péchés, je t'ai donné le salut pour que tu puisses le vivre jour après jour. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, a tout fait pour nous, afin que nous puissions avoir une vie de joie, une vie de paix, une vie pleine et heureuse. Et nous devons le remercier et le louer. Alors simplement, prenons quelques instants de silence. Et disons, Seigneur, je veux maintenant prendre ce temps de Sainte-Seine avec toi. Je veux pouvoir goûter à ce moment. Je veux pouvoir voir que c'est seulement en toi que j'ai la vie. Alors nous sommes invités à venir devant le trône du Seigneur à travers ce repas pour qu'on puisse se mériter de ce que Jésus-Christ a fait il y a plus de 2000 ans pour nous. Il est mort pour nos péchés, pour nous donner la vie. On a besoin de pouvoir voir à travers ce repas, à travers le jus, à travers le pain, comment que Dieu veut encore nous restaurer. Dieu veut encore que nous puissions vivre une vie merveilleuse avec lui. Une vie de repos. Une vie qu'on puisse se délecter en lui, qu'on peut le contempler jour après jour. Et surtout dans ce temps, peut-être que nous vivons, de pouvoir dire, Seigneur, je veux rentrer dans mon repos. Je veux pouvoir goûter à ce que tu as fait sur la croix pour moi. Tu as tout fait, je crois. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le remplit en disant, ceci est mon corps. Il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Et on te remercie pour ce rappel à travers ce repas de tout ce que tu as fait pour nous. Ce corps qui a été brisé, torturé, injurié pour nous donner la vie. Tu as été jusqu'au bout, tu as accompli la mission complète que ton Père avait demandé. Tu nous as mis dans un amour tellement grand qu'on l'adore, on a chanté ce matin. Toi, le juste est mort pour nous, les injustes, les pécheurs. Seigneur, ton sacrifice, le sang a coulé pour nous laver de nos péchés, pour nous permettre que nous soyons pardonnés, libérés de notre ancienne vie, de tout ce qui nous pèse, d'où de notre vie, pour pouvoir vivre libre avec toi. Seigneur, on te remercie parce que à chaque fois qu'on se rappelle, Seigneur, à travers, Seigneur, ce repas, ce que tu as fait, nous sommes dans l'émerveillement, nous sommes dans la reconnaissance, dans la joie de savoir que tu nous pardonnes encore aujourd'hui de toutes nos fautes, nos iniquités, de tous nos manquements. Seigneur, tu nous as rappelé ce matin l'importance de ce temps de repos, l'importance de pouvoir justement prendre du temps spécial avec toi. Sinon, on a besoin de pouvoir vivre un rythme selon toi, selon ta parole, non selon l'humain, selon ce que la société veut nous dire. Seigneur, permet que encore dans ces prochaines semaines, nous puissions justement prendre ces temps de sabbat, comme on pourrait dire, prendre des temps où on peut se reposer physiquement, où on peut se libérer de tout ce qui nous pèse durant toute la semaine. Qu'on puisse, Seigneur, faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous apporte la joie, qui nous apporte le plaisir. Parce que nous serons libérés en toi et nous allons pouvoir aussi, justement, se délecter, Seigneur, de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose avec nos amis, avec nos familles. Permets encore que ces temps, Seigneur, soient des temps où nous pouvons te contempler. Nous allons rechercher ta part, où nous allons te remercier, te louer pour tout ce que tu es pour nous. Oui, Seigneur, on a besoin. On a besoin de ces temps d'arrêt dans nos vies. On a besoin de ces temps pour simplement se recentrer sur toi. Alors, Seigneur, je prie maintenant que chacun de nous, tu connais nos défis, tu connais peut-être nos horaires, nos programmes bien chargés. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous éclairer. De voir que, Seigneur, que la terre va continuer de tourner même si on s'arrête un jour. Que l'importance que de prendre du temps avec vos familles, avec vos enfants, ce sont des temps qui vont être des temps merveilleux que même les enfants plus tard vont te rappeler. Aide-nous, Seigneur Jésus, à prendre ces temps en famille, en amis, de se réjouir de la joie, de pouvoir prendre des temps seul avec toi, de pouvoir contempler ta création et de pouvoir te dire comment tu es grand et merveilleux. Alors merci. Merci pour ce rappel. Merci pour ce repas qui nous rappelle comment que tu as été bon pour nous et comment que tu nous aimes encore aujourd'hui et que tu veux nous faire du bien. Permets que, Seigneur, tu puisses nous ressourcer à travers, Seigneur, ton sacrifice, à travers le sang qui est écoulé, à travers ton aile, à travers ton amour, tes bontés qui se déversent après jour sur nous, que nous puissions nous reposer en toi, que nous puissions devenir justement des hommes et des femmes qui sont saints, équilibrés dans leur vie et qui pourront continuer de proclamer que tu es grand et bon. Alors merci pour ce temps ensemble. Que nous puissions continuer de célébrer haut et fort que tu es tout pour nous. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses être encore avec nous de la suite de cette journée. Que ta grâce, que ta paix, que ta joie, Seigneur, soit sur nous, demeure sur nous aujourd'hui, demain, jusqu'à ton retour. Et que nous puissions continuer de se réjouir d'être avec toi, de te louer toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Amen.